Aujourd'hui, on investit dans les champs le budget de la santé de dans 10 ans. Et il faut absolument pouvoir faire des passerelles entre des secteurs économiques qui aujourd'hui sont très isolés. Et on voit l'impasse dans laquelle on se trouve quand on fait un budget de santé, puisqu'on est dans le curatif, curatif, curatif. Et pour pouvoir faire un budget de santé, en fait, aujourd'hui, il faudrait faire un budget sur l'ensemble des chantiers de la transition.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulable.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Julien Dossier. Bonjour Julien.
Bonjour Brieux.
Je suis très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, d'autant plus que j'ai terminé il y a quelques semaines ton livre « Renaissance écologique » publié chez Actes Sud en mai dernier. Je l'ai trouvé excellent et voilà pourquoi je me suis permis de te contacter, d'autant plus que nous sommes tous les deux Nantais, donc ça peut faciliter les choses. Est-ce que d'abord tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours ?
Aujourd'hui, je suis expert en neutralité carbone. J'ai fait partie de l'équipe qui a produit la stratégie de neutralité carbone de Paris. Et pour arriver là, j'ai eu plusieurs étapes de maturation, disons, parce que le sujet est neuf et complexe. Auparavant, je me suis occupé de recherche sur les villes post-carbone, avec la stratégie de post-carbone du territoire de Fontainebleau, avec une participation aussi au programme de recherche de l'ADEME sur les repenser les villes dans une société post-carbone. Ce qui m'a amené à co-diriger le programme du Sommet mondial des villes durables, EcoCity, qui s'est tenu à Nantes en 2013. C'est pour ça que maintenant je suis à Nantes, parce que j'ai eu plaisir à préparer cette mission depuis Nantes et j'y suis resté après l'événement. Et puis d'autres missions comme ça liées à la dimension territoriale, la stratégie de métabolisme urbain de pleine commune. Donc ça, c'est la partie un peu, disons, recherche, qui m'a amené aussi à faire des cours à HEC sur la ville durable. Et à côté de ça, j'accompagne des entreprises, j'accompagne des territoires, j'accompagne des investisseurs sur leur stratégie, les éléments qui leur permettent aujourd'hui d'aligner leur mission avec les données scientifiques qu'on peut se procurer auprès du GIEC, notamment dans les rapports, les rapports principaux, 4, 5, 6 aujourd'hui, le 6e en cours de finalisation. Donc comment on fait le lien entre ces données scientifiques, les pratiques des institutions, organisations, associations, entreprises et les contraintes dans lesquelles on se trouve avec aussi des opportunités. Avant de faire ça, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 7 ans pour le groupe Reuters, dans lequel j'ai eu plein de métiers qui m'ont amené à comprendre ce qu'est la notion d'analyse systémique, puisque dans le monde de l'information financière, on connaît Reuters en tant qu'agence de presse, mais c'est principalement un groupe d'information financière, on est dans de l'information mondialisée. C'est le cas où on a des données sur la coquille d'œuf au Pérou qui intéresse des traders à Chicago, et du coup des gens en Europe qui suivent les prix des traders à Chicago. Là, c'est pour la partie matières premières, prix, etc. Mais j'ai vu vraiment cette imbrication des données, des facteurs qui connectent des opérateurs dans le monde entier. Et ça s'arrête jamais. Et on voit bien que dans une phase de monde où les données se sont imbriquées, les flux se sont imbriqués, les thématiques sont connectées les unes aux autres, et on voit aussi d'autres exemples, la propagation des mortgage-backed securities, ces produits financiers inventés pour le marché immobilier en Californie, qui ont eu une répercussion mondiale, conduit à la faillite de la Grèce. Enfin, on est dans ce monde-là. Et je me suis formé finalement dans un contexte financier à cette complexité, à cette interdépendance, à cette à ce croisement des différents registres de données. Et j'ai vu la difficulté qu'il y avait à l'époque, quand je travaillais pour Reuters, à enclencher une bascule. Parce que au moment où je travaillais chez eux...
Donc là, on est début des années 2000.
Oui, c'est ça. C'est 97, 2003, 2004. Et là, moi, quand j'arrive dans la boîte, l'héritage de Reuters, c'est ses propres satellites, ses propres ordinateurs, ses propres applications, ses propres données, son propre extranet, etc. Donc, et puis arrive Internet, donc plus besoin de tout ça. Arrivent les blogueurs, donc du coup, pas, l'effet temps réel d'un réseau de correspondants dans le monde entier... devient complètement différent. Donc, les barrières stratégiques s'effondrent les unes après les autres. Très vite, il faut pouvoir introduire des nouvelles technologies. Et là, on sent que c'est une énorme rupture dans les processus de travail, dans la façon dont on équipe les journalistes, dans la façon dont on construit les architectures système. Et puis, il faut aussi anticiper l'impact chez les clients quand on déploie tout ça. Bref. Ça, c'est une formation, je pense, pour voir aujourd'hui ce que ça veut dire de changer d'un monde carboné à un monde décarboné, puisque on a finalement une situation très analogue. On a des données des facteurs très liés les uns aux autres. Et puis, on se dit, on va arrêter un truc, on va faire autre chose. Et là, on a des facteurs d'inertie, de transformation du parc, du stock, des choses qui sont déjà là, qu'il faut qu'on adapte. Et puis, il y a des gens qui peuvent se payer ça, des gens qui peuvent pas se le payer. Donc, du coup, il faut qu'on se pose la question des modèles économiques. Comment est-ce que on construit cette nouvelle économie? Comment est-ce qu'on finance les investissements? Parce que ça coûte cher à un moment donné de faire ça pour sortir des nouveaux équipements et absorber les anciens. Comment est-ce qu'on peut réutiliser? Voilà. Donc, j'ai vu, moi, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de faire ce lien entre, finalement, une sorte de formation prolongée, chez Reuters, après ma formation initiale qui était HEC, où j'ai eu un parcours européen et entrepreneur avec la majeure entrepreneur. Voilà.
C'est marrant, vous êtes nombreux à avoir fait la majeure entrepreneur à HEC. Ok, en tout cas, c'est assez intéressant. Et donc, toute cette compréhension finalement de ces implications, de cette pensée systémique, donc tu l'acquiers au fur et à mesure chez Reuters, et qu'est-ce qui fait la bascule pour que, d'un coup d'un seul, tu te dis, Reuters, après quelques années, je mets de côté et je vais me spécialiser sur la neutralité carbone, enfin sur des sujets qui, à l'époque, sont évoqués, mais pas aussi prégnants qu'aujourd'hui.
Oui, bien sûr. En fait, chez Reuters, moi, graduellement, j'ai été amené à travailler sur des sujets de plus en plus complexes et avec une mission pendant 4 ans près du rédacteur en chef Monde, donc basé à Londres. À l'époque, Rare, qui est la banque, mon patron, dirigeait une équipe de 2500 journalistes, une des plus grandes rédactions du monde, réparties dans 190 bureaux, etc. Donc c'était l'équipe avec laquelle on devait travailler pour opérer ce changement de génération. Et du coup, il fallait se poser des questions au moment où on démarre une nouvelle génération, de savoir dans quelle direction on part. Donc j'ai été amené à faire des travaux de prospective, justement, dans ces années 2000, sur c'est quoi l'information du futur. Donc, ça m'a amené à travailler sur les notions de métadonnées, d'automatisation de l'information, de la robotisation, ce qui nous amène aussi sur les notions de confiance. Aujourd'hui, on voit l'importance de la confiance quand on la perd, avec les fake news, etc. Donc, ça, c'était les choses que j'avais, sur lesquelles je travaillais, finalement, en avance de phase.
Surtout que début des années 2000... les blogs, YouTube, Facebook, etc. n'existent pas. Enfin,
ça émerge à ce moment-là. Mais du coup, très vite, Reuters s'est posé la question. Et nous, en tant qu'agence de presse, on sert à quoi? Qu'est-ce qui nous différencie? Et finalement, c'est la confiance. Et d'autres points, d'autre part.
Et ça, dès le début, vous l'identifiez, ce
point fort. Et parce que c'est une entreprise, et c'est le deuxième point qui m'amène à cette transition, c'est une entreprise qui vit depuis plus de 150 ans sur des valeurs. Et pas simplement des valeurs monétaires, financières, c'est des valeurs morales, avec des engagements pris par une charte éditoriale, etc. Et j'ai vécu, moi, les moments où mon patron, à l'époque, devait prendre la parole parce que certains des journalistes avaient été tués en opération. Et donc, c'était une boîte qui devait choisir le niveau de risque qu'elle donnait à ses employés pour aller couvrir les événements. Donc, c'est une boîte courageuse. Une boîte courageuse aussi dans ses valeurs qui, à l'époque, ne voulait pas obéir à George Bush qui disait « You're either with us or against us ». Reuters disait « Non, nous, on fait l'information ». Donc, j'étais dans cette culture des valeurs on savait pourquoi on travaillait, en fait. Et puis, le contexte stratégique a fait qu'à un moment donné, il a fallu serrer les boulons. Et moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai j'ai envie de continuer de travailler sur ces histoires d'innovation, de transformation, des choses qui ont du sens. Et j'ai senti que c'était le moment que je quitte cet environnement-là, que j'aille en inventer un autre. Je n'avais pas forcément un plan très, très établi. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, je veux faire des choses qui ont du sens. J'ai lu, beaucoup lu à ce moment-là. Et c'est le moment où je suis rentré dans les lectures sur le quatrième rapport du GIEC. Je me suis dit, si ces gens-là disent des choses qui sont saisissantes, s'ils ont raison, il faut absolument s'en occuper maintenant. Et de proche en proche, c'est ce qui m'a amené à d'abord travailler sur les questions de mobilité, et puis la mobilité prise sous l'angle de l'offre. Comment est-ce qu'on fait évoluer la trajectoire d'un groupe automobile? Pendant 2 ans, j'ai travaillé pour le patron du design d'un grand groupe automobile européen. Et donc là, on s'est posé la question de savoir quel est le cahier des charges de l'automobile du futur. À quoi qu'est-ce qu'on donne comme instruction aux designers dans les laboratoires du monde entier de ce groupe?
Parce que c'est incroyable, l'automobile.
Exactement, voilà. Et moi, je suis rentré avec justement cette approche de prospective. Et très vite, en croisant la fonction de prospective et les données qu'on lisait, on s'est dit, ben, en fait, le fil rouge de cette transition, de cette mission, c'est la ligne verte. C'est vraiment comment est-ce qu'on intègre les données qui émergent là des rapports scientifiques. Il faut absolument qu'on aligne la stratégie d'entreprise et du coup ce qu'on donne comme mission aux designers pour être sur la bonne trajectoire. Et là, ça nous a amené à travailler sur du coup le bloc thermique, mais aussi du coup les origines de la consommation d'énergie, donc du coup le poids, donc du coup le gabarit, donc du coup l'acceptabilité aussi de la forme de l'objet et du design de ce qui est mis sur la route.
Et puis les usages.
Et les usages. Voilà, on a travaillé avec notamment, c'est là où j'ai formé une amitié très forte avec Stéphane Juguet, un anthropologue qui avec qui je continue de cheminer, qui est aussi basé à Nantes, qui a créé l'agence What Time Is It et qui un formidable projet de transformation urbaine avec qui j'ai travaillé aussi à Grande-Synthe, etc. Bref, cette expérience, elle nous a amené à vraiment travailler sur l'offre de mobilité en disant, bah là, on va faire évoluer le parc automobile, on va l'électrifier. Et à la fin de notre collaboration avec ce groupe-là, on s'est dit, mais au fond, on est en train de mettre tout notre argent dans la transformation de l'offre du parc, mais en parallèle, on laisse filer la demande. L'étalement urbain, les modes de vie font qu'on consomme de plus en plus de kilomètres. Donc, si on réduit la quantité d'énergie par kilomètre parcouru, mais qu'on augmente le nombre de kilomètres, ben, au final, on continue d'avoir un besoin d'énergie qui reste sur une trajectoire qui n'est pas la bonne. Donc, on ne peut pas limiter la politique de mobilité à une offre. On doit intégrer la demande. Et là, la demande, ce n'est pas du ressort stratégique d'un groupe automobile. Il a beau être très grand, plusieurs centaines de milliers d'employés, à l'échelle du monde, c'est très petit. C'est pas un groupe automobile qui va peser sur les trajectoires de demande de mobilité dans les villes. Il faut travailler avec les territoires. C'est pour ça que, à la fin de cette mission, je me suis tourné vers une approche de territoire pour comprendre les besoins. Donc là, c'était autour de 2008.
Okay. En plus, avec un contexte hyper délicat, 2008, la crise, etc. Donc oui. Tu te dis qu'il y a peut-être aussi besoin d'un renouveau, etc.
Oui, absolument. Et puis on voit que il y a une question aussi de solvabilité. On sait bien quand on travaille dans ces années-là que il va falloir sortir de l'argent pour pouvoir acheter des nouveaux équipements de mobilité. Est-ce que tout le monde peut se le payer? Ben, au début, non. Donc, du coup, la stratégie traditionnelle, c'est ce que fait Tesla, c'est on fait des voitures de luxe, et puis après, ça fait du volume, ça fait baisser les prix, et après, on peut avoir une solution de masse. Mais du coup, pour avoir une transition de masse, ça reporte dans le temps le moment où on a l'équipement qui nous permet d'apporter une réponse aux besoins de la majorité de la population. En attendant, on fait rêver les gens en disant « Regarde, la Tesla magnifique, et puis toi, t'es dans ta poubelle diesel ». Donc ça va pas, on crée de l'insatisfaction, on crée de la frustration, on crée un sentiment d'abandon et d'injustice aussi, parce que finalement on n'est pas plus bête que les autres quand on n'a pas une voiture électrique, qu'on sait que par défaut une voiture diesel, si on met le nez sur le pot d'échappement, on sent que c'est pas hyper agréable, donc il y a un problème. Donc, on le sait tous, donc on se sent finalement contraint par cet usage là et on sent que l'écologie, telle qu'elle s'incarne dans le projet voiture électrique, n'est pas un bon projet. Donc c'est aussi des facteurs sociaux, des facteurs psychologiques, des facteurs humains, des facteurs culturels qui doivent être pris en compte. Comment est-ce qu'on arrive à faire cette bascule, non seulement dans le parc, il faut qu'on adapte les 37 millions de voitures en circulation en France, c'est plus 1 milliard à l'échelle mondiale, c'est un énorme marché à transformer. Et ça, ça ne peut se faire que si, en parallèle, on repense à nos usages, donc les facteurs de demande. C'est là où on touche au covoiturage, c'est là où on touche à l'autopartage, c'est là où on touche aussi à la réduction des distances, au bureau des temps, transport de marchandises. Mais il y a plein de facteurs qui font que, avec le parc existant, sans même toucher un iota de la tôle qui est en circulation, on peut fonctionner différemment, on peut réduire massivement la quantité d'énergie induite par le transport. Par exemple, si on réduit massivement les distances parce que on peut marcher entre chez soi, l'école, le boulot et les courses, ben on n'a plus besoin de voiture. Donc du coup, elle a beau être en diesel, si elle circule pas, elle émet rien.
Mais là, en plus, et on en revient à ce que tu disais, c'est d'un point de vue systémique, effectivement, non seulement un groupe automobile ne peut rien faire, mais là, c'est plus, je dirais, une question d'urbanisme, c'est-à-dire
est-ce
que les gens peuvent acheter ou vivre, en tout cas, ou louer un appartement ou une maison, peu importe, à proximité de l'école, etc.
Oui.
Enfin, c'est toute la difficulté du sujet.
Voilà, et on rentre sur des problématiques qui sont un peu des arlésiennes, de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on arrive à revitaliser les campagnes, à revitaliser les petites villes? Comment est-ce qu'on peut soutenir le petit commerce au moment où on se rend compte que les grandes surfaces, donc on sait que c'est de l'étalement urbain, on sait que c'est de la destruction d'emplois de centre-ville, on sait que c'est des flux d'approvisionnement avec des grandes centrales d'achat, des camions qui nécessitent des infrastructures de logistique, qui sont elles-mêmes consommatrices d'espace, à la fois dans les plateformes, mais aussi dans les raccordements autoroutiers, parce qu'il faut des autoroutes pour pouvoir connecter ces grands centres les uns aux autres et avoir ensuite des maillages pour que les camions viennent approvisionner les grandes surfaces, etc. On est dans une course folle qui augmente la consommation d'énergie par unité consommée, qui augmente la consommation de sol, qui augmente les barrières sur la propagation ou l'équilibre de la biodiversité, parce que c'est des obstacles. Quand on crée des barreaux routiers, c'est pas facile de traverser quand on est crapaud, quand on est petite espèce, etc. Donc on induit plein de choses, on hérite d'un système qui va dans une direction avec d'énormes investissements, avec une vision culturelle, et ça, on nous demande aujourd'hui, dans l'extrême urgence, il nous reste maintenant 15 mois pour inverser la tendance, 135 mois pour faire moins 50%, et 375 mois pour atteindre la neutralité carbone. C'est une extrême urgence, c'est un facteur temps que on n'a pas encore intégré, et aujourd'hui je me bats pour que on intègre cette variable temps au cœur des raisonnements. Il faut absolument qu'on se mette dans le bon tempo. Il s'agit pas simplement de dire un jour en 2040 on interdira les moteurs thermiques dans l'automobile, pour rester dans cet exemple. Ça, c'est beaucoup trop tard. On le voit bien. Et en plus, d'ailleurs, certains pays ou certains constructeurs vont beaucoup plus vite. On parle de 2019-2020 pour certains constructeurs. On parle de 2024 dans les villes. Donc, on sent que l'État, qui se donne des objectifs aussi lointains, ne prend pas en charge l'intérêt général aujourd'hui. Il n'est pas dans son rôle de pilote qui protège la nation d'un péril qui est ce changement climatique. On a besoin d'un sursaut.
Complètement. Et j'aime bien aussi cette notion de temps rapproché au mois, ce qui est beaucoup plus concret finalement que toujours en année, qui on a tendance à l'éloigner, 2030, 2040, etc. Et là, je trouve que c'est assez concret. Et justement, j'en profite pour passer un petit peu plus de temps sur ton livre. Alors, encore une fois, je l'ai trouvé excellent. Il est très bien documenté. Le propos est précis, enfin très bien construit. Franchement, en plus, je suis passionné d'histoire, donc j'ai beaucoup apprécié le rapprochement historique que tu fais entre la Renaissance, la période actuelle. D'ailleurs, ça me fait penser peut-être à quelqu'un que tu connais, Yannick Rudeau, qui fait aussi des bons parallèles sur
la controverse de Valladolid.
Exactement. Et donc, l'idée centrale de ton livre, c'est un entretien, puis j'invite tous ceux qui nous écoutent à le lire. Mais l'idée centrale, c'est de repartir d'une fresque du peintre italien Ambrogio Lorenzetti, du XIVe siècle. Est-ce que déjà tu peux nous raconter un petit peu la genèse de cette fresque?
Ouais. Alors, c'est une genèse due au hasard. C'est un principe très vital, finalement. À la base, moi, je me suis confronté depuis de nombreuses années au fait de raconter des choses compliquées. Et quand je travaillais sur repenser les villes dans une société post-carbone, j'ai participé à un travail collectif où il y avait 24 équipes de recherche. On a produit un rapport de plus de 300 pages, formidable. Il reste 10 ans plus tard une vraie mine. J'encourage chacun à se plonger dedans. Et ce truc-là, j'étais très conscient de la difficulté de la communication des résultats et de finalement l'intelligence qui était là. C'est un objet et pour que ça marche, pour que les éléments, les conclusions, les idées qui sont dans cet objet puissent vivre, puissent se matérialiser, impérativement qu'elles se diffusent à très grande échelle. Toutes les villes de France doivent aujourd'hui, ou même il y a 10 ans, avoir une réflexion sur la stratégie post-carbone, avec une dimension sociologique, une dimension économique, une dimension politique, une dimension technique, une dimension énergétique, une dimension biodiversité, et tout ça se mélange. Donc, mon métier, c'est j'ai appris à vivre dans cette complexité et à prendre aussi la mesure de la difficulté de la communication de cette complexité. On l'a vu à plusieurs reprises quand on a organisé le sommet mondial des villes durables en 2013. On a produit 150 heures de contenu avec 700 intervenants et qui faisait un état de l'art mondial sur les villes durables. Formidable, impossible à communiquer parce que 150 heures de contenu, personne va les écouter. Notre podcast va faire quelques dizaines de minutes au max. Donc etc., etc. Donc, se pose la question de savoir comment on peut faire pour parler au grand public, puisqu'il est nécessaire aujourd'hui d'embarquer tout le monde, puisqu'on le sait que on peut pas imposer un truc en disant faut obéir, faut faire ça, etc. Il faut qu'on soit nombreux à adhérer à cette vision, à comprendre l'urgence, à en comprendre les leviers, à en comprendre les moyens d'action, comprendre la coopération, les modes d'organisation. Tout ça, c'est en jeu. Ça ne peut marcher que si on est nombreux à participer à ce projet. Donc, si on est nombreux à avoir connaissance des et ça suppose qu'on ait trouvé les moyens de partager cette connaissance. Comment on fait ? Alors, il y a des choses qui sont éclairantes. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur les nouveaux récits, notamment Cyril Dion qui a fait Demain, qui était un carton, qui a touché 1 million de personnes. C'est nouveau, on parle d'écologie différemment, grand public, des télés, des radios, des magazines. Ah, Demain, ça ouvre plein. Et c'est très bien, mais quand on est dans un film, on est dans un récit linéaire. Donc là encore, on a des chapitres qui se suivent les uns les autres. Est-ce qu'il faut commencer par celui-là ou par celui-ci ? Est-ce que c'est quoi l'origine du problème ? Est-ce qu'il faut démarrer par des questions de biodiversité, de climat, ou d'éducation, ou de finance ? Ou enfin, il y a un choix éditorial et on raconte une histoire. Mais à la fin, est-ce qu'on a, au-delà du titre Demain et au-delà du sentiment qu'on peut avoir parce qu'on a été touché par les émotions, parce qu'on a vu des gens qui nous ont inspirés, on a vu des choses qui nous ont fait rêver, donc le film a un pouvoir formidablement mobilisateur. Mais pour comprendre, pour avoir une vision synthétique de tout ça, on sait que les choses sont mélangées, comment on fait ? Donc, ça c'est une première ligne. L'autre c'est, quand je travaille sur ce sujet de la transition, les gens me demandent souvent, mais alors, où est-ce que ça va bien ? Donne-moi un exemple d'une ville durable. Et là, j'ai un mal fou à répondre en disant, voilà, ça c'est le village d'Astérix, ça va très bien. Grande-Synthe, ça s'en rapproche. On peut aller à Grande-Synthe. Pas besoin d'aller dans les pays nordiques, etc. On peut aller à Grande-Synthe.
Les pays nordiques viennent à Grande-Synthe.
Voilà. Et les pays nordiques viennent à Grande-Synthe. Allez à Grande-Synthe. Vive Grande-Synthe. Mais, Grande-Synthe dépend aussi, par exemple, aujourd'hui, de la proximité des usines polluantes, Seveso, à côté, qui, par leur contribution financière, permettent d'équilibrer et de financer une partie de cette trajectoire-là. Donc, est-ce que c'est réplicable ailleurs, dans des endroits où il n'y a pas cette manne financière pour financer cette politique ? Probablement non. Et qu'est-ce qui se passe si, pour des questions de conversion écologique, ces usines sont amenées à réduire massivement leur activité, voire à fermer ? C'est les emplois de Grande-Synthe qui disparaissent. Donc, il y a un côté un peu fragile aussi. Certes, aujourd'hui, la politique de Damien Carême est géniale, et soutenons-le, il porte vraiment une vision de l'avenir, mais on sent que il y a des facteurs à côté qui sont compliqués. Donc, même dans ce cas d'école où on peut se dire, là, il y a plein de trucs qui vont bien, on n'a pas tout. Et par ailleurs, on sent qu'il y a des solutions qui émergent un peu partout. Donc, on n'a pas forcément de photos à faire d'un endroit dans lequel on peut dire, voilà. Donc, on ne peut pas faire de photos. Et en plus, quand on veut faire une photo, on se dit, il y a des choses qui relèvent du micro, de l'intime, et puis des choses du macro, de l'équipement, de l'infrastructure. Donc, il y a une question de taille. Comment est-ce qu'on peut réunir des choses aussi disparates que ce que je mets dans mon assiette quand je mange et le mode de transport pour aller à la grande ville voisine? C'est pas la même taille, donc ça rentre pas dans la même photo. Et j'ai voulu montrer qu'on avait aussi, un troisième point, des erreurs de représentation. On est abreuvé d'images dans un monde de Instagram, d'Internet, de publicité, de télévision, etc. On a des images partout, partout, partout. Et quand on regarde un journal, un magazine, une affiche qui nous parle de l'écologie ou la vie durable, ben voilà des choses qui sont tronquées, qui sont finalement des mauvaises représentations du sujet. On voit souvent, j'ai en tête un journal qui faisait un truc sur l'économie, sur l'écologie humaine, innovative, inclusive. Et pour illustrer ça, ils mettent des tours de béton avec un tout petit peu de pelouse verte, une éolienne et un panneau solaire. Donc il n'y a pas d'historique, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de quoi nourrir les gens. Et un truc humain sans humain, ça ne va pas. Donc on a des problèmes comme ça de représentation. Et puisqu'on a des problèmes de représentation, on se dit qu'aujourd'hui, la transition énergétique, c'est de faire des métros, c'est de faire des trains, mais on va pas faire des trains et des métros partout. Pour aller de Pontcharra à Tarare, on va pas faire un métro. Pour aller, donc on fera peut-être un tram comme il y avait avant, mais on fera pas un métro. Et on a plein de besoins pour lesquels on va pas avoir de solution ferroviaire. Donc on peut pas mettre dans la tête des gens qui vivent, je reprends cette région entre Saint-Jules-la-Pendue, Chéras-Simon, Machézal, on va pas avoir de solution ferroviaire entre ces petits villages. Et pourtant aujourd'hui, quand on veut parler d'écologie, on parle tout de suite de ça. Donc on n'apporte pas de solution à plein de territoires. On se limite à des portions. Donc, un problème de récit complexe, premier point. Deuxième point, une question de difficulté d'assembler des choses disparates. Troisième point, des erreurs de représentation et la difficulté d'avoir un lieu qu'on puisse représenter. Donc, j'ai voulu montrer à mes étudiants à HEC que cette question-là n'était pas une question neuve. Et on a, j'ai cherché des représentations de la ville idéale pour montrer les erreurs de représentation des villes idéales. Et on voit notamment la cité idéale de Urbino, qui est très belle. C'est une magnifique représentation de la Renaissance où on voit des bâtiments classiques avec une perspective idéale. C'est splendide. On se dit là, c'est beau. Je vais être là, je vais être heureux. Donc pour la beauté, ça réussit. Mais pour la ville, c'est complètement un échec. Voilà, parce que où sont les gens qui font le vélo ? Il y a quasiment personne. On voit à peine un petit bateau, mais est-ce que c'est comme ça que les gens se déplacent ? Comment est-ce qu'on mange ? D'où viennent les matériaux, etc. Donc ça marche pas comme représentation. Et parmi les représentations sur ce moteur de recherche, il y en avait une qui sortait du lot et qui déjà change de format et puis qui, à part égale, représente une partie de la nature et une partie de la ville. Je me suis dit, enfin, on arrive à réunir les deux parties qui sont essentielles l'une à l'autre. S'il n'y a que la nature, il n'y a pas de civilisation qui prospère, et s'il n'y a que des villes qui n'ont pas de nature pour les nourrir, il n'y a que des ruines. Donc, on a besoin des deux. Donc, au début, j'étais content de dire ça. Regardez. Ah. Et en plus, j'étais content parce que dans cette image-là, on voit plein de gens. Ils sont en premier plan. Et donc, c'est le premier truc qu'on voit, c'est le truc qui domine. Donc, on dit, enfin, il y a des gens dans la ville et dans la campagne qui travaillent ensemble et qui font des trucs. Ils sont actifs. Oh, c'est vrai. Et donc, de proche en proche, je fais des conférences, des cours, j'utilise, j'en parle à mes clients, et puis je vis avec cette image. Ma sœur me rapporte un grand puzzle, je fais le puzzle, et puis là je vois des tas de trucs. Et puis à un moment, je vois deux cavaliers sur un cheval. Ça, je me dis, ah oui, en fait, ils avaient inventé le covoiturage. et du coup,
tu veux dire sur, on a le livre sous les yeux, mais
sur la couverture, on voit, alors c'est assez petit,
les tout premiers là,
ouais, qui sont en sortie de la muraille, c'est deux cavaliers sur un même cheval.
Ah oui, en train de rentrer dedans.
Voilà. Tout à fait. Donc, et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment creuser. Alors c'est une image qui est un peu particulière. C'est une allégorie. Ça veut dire que c'est une composition visuelle dont chacune des parties est porteuse de sens. Et une allégorie, il m'a fallu passer un temps d'interprétation, d'analyse pour en comprendre le sens. Je me suis documenté, j'ai notamment beaucoup lu les ouvrages de Patrick Boucheron, mais pas seulement lui. Cette fresque, j'ai découvert, fait l'objet d'énormément de travaux.
Donc, juste une petite parenthèse, Patrick Boucheron avait fait une étude de cette fresque.
De cette fresque, de ce cycle de fresques d'ailleurs, parce oui, que c'est en fait la fresque s'appelle l'allégorie des effets du bon gouvernement de Ambrogio Lorenzetti. Elle fait partie du cycle de la salle de la paix, dans laquelle on trouve l'allégorie des effets du bon gouvernement, en face de laquelle se trouve l'allégorie des effets du mauvais gouvernement, et au milieu de laquelle se retrouve l'allégorie du gouvernement. Donc on a là un objet tripartite qui est très très intéressant. Et donc Patrick Boucheron, son ouvrage majeur sur le sujet s'appelle « Conjurer la peur ». Et je vous encourage à l'acheter, à le lire, parce que c'est une ressource, une mine pour vraiment rentrer dans le détail des compositions. On a des photos, c'est un formidable ouvrage. Donc ça, c'est une fresque de la Renaissance. Et puis, dans son analyse, j'ai vu que ça marchait. C'était une représentation qui correspond à notre situation. Donc, parmi les sources de documentation, je me suis notamment tourné vers les travaux de Patrick Boucheron, l'auteur donc de Conjurer la peur. Et c'est un travail formidable, parce que Boucheron, médiéviste, est un amoureux de ces représentations-là, qui sont chargées de sens, chargées d'histoire. Et il explique l'origine de la fresque, son contexte politique, son usage, et décompose, décortique les différentes parties importantes, que ce soit l'allégorie des effets du bon gouvernement, l'allégorie des effets du mauvais gouvernement et l'allégorie du gouvernement. Et je me suis senti équipé avec ça pour pouvoir raconter notre histoire contemporaine, mais avec la difficulté de faire passer le message. Et si on dit, regardez cette fresque de Lorenzetti, c'est formidable, c'est le futur. Évidemment, les gens qui découvrent cette fresque disent, mais non, c'est le passé. Voir, c'est passéiste, on n'en veut pas. Il y a des chevaux partout, nous on a des voitures, c'est pas pareil. Donc, très vite, je me suis dit qu'on avait besoin d'une version contemporaine, d'une interprétation de la fresque de Lorenzetti, qui en garde les principes, qui en garde la composition, qui en garde les règles, parce qu'il y a des règles dedans, on va y revenir, et qui les adapte à notre monde contemporain. Et c'est là où j'ai rencontré Johan Bertrandi, un artiste à Nantes, avec qui j'ai collaboré sur la production de cette fresque contemporaine. Je lui ai d'abord expliqué ce que je voyais dans l'image de la Renaissance. Je lui ai donné une table d'équivalence pour dire, dans telle zone, là on représente telle fonction, ou tel chantier, ou tel sujet, et voilà la représentation donc contemporaine, l'équivalent. Donc un mariage, une salle de cours, et puis il y a des choses qui ont un peu changé.
Pour ceux qui ont le livre, page 70.
Exactement, page 70. Et non seulement une table d'équivalence, mais aussi j'ai repris les codes de la production de Lorenzetti, c'est-à-dire que j'ai tenu à ce qu'on se base sur des photos pour représenter la version contemporaine. Parce qu'à l'époque, Lorenzetti n'invente rien. Il documente l'état de l'art, les technologies connues au moment où il peint, 1338, et qui sont choisis pour leur efficience, leur performance, leur beauté aussi, une minimisation pour la beauté. Donc, pour moi, il était absolument impératif que notre représentation contemporaine soit fiable. Pour être fiable, elle doit s'appuyer sur des choses qui existent, des technologies qu'on maîtrise et qu'on va pouvoir déployer dans le bon tempo pour être au rendez-vous en 2050. On ne peut pas se permettre de dépendre de l'invention de la machine volante à couper le beurre. Il faut qu'on puisse utiliser des couteaux simples, et si possible des couteaux qui existent déjà sans avoir besoin de les produire avec une consommation d'énergie, de matières premières nouvelles.
Surtout quand on regarde autour de nous, pas uniquement en France, mais on se rend compte qu'il y a une infinité de choses qui fonctionnent déjà, etc., et qu'effectivement, faut pas réinventer la roue à chaque fois.
Absolument. Et aussi, si on couple cet impératif donc carbone qui nous amène à la neutralité en 2050, on a d'autres impératifs écologiques, notamment la biodiversité, notamment les ressources, et on doit pouvoir combiner ces variables dans notre cahier des charges. Et pour moi, il est important aujourd'hui de faire des choix, de dire que si on veut être au rendez-vous en 2050, mais il y a des choses qui vont tenir la route et qui vont respecter ce cahier des charges et d'autres pas. Et les choses qui ne seront pas à l'heure ou qui ne respecteront pas ce cahier des charges, on peut les abandonner parce que c'est une distraction. Ce n'est pas une façon de réduire le risque, c'est une façon de l'augmenter. Donc surtout, abandonnons certains projets, concentrons-nous nos ressources sur ce qui va marcher.
Évitons le gaspillage des ressources.
Voilà. Et on va massifier des solutions dans lesquelles on a confiance parce que elles sont maîtrisées et l'enjeu aujourd'hui c'est de déployer, c'est pas d'inventer, c'est de déployer. Donc c'est un principe d'efficacité. Donc avec cet outil-là, on se retrouve équipé pour représenter. On se retrouve équipé également pour mobiliser, parce qu'on sait qu'un des enjeux de cette neutralité carbone, c'est pas simplement de la comprendre, c'est pas simplement de la désirer ou de la redouter, mais c'est de la mettre en œuvre. Là encore, c'est le résultat qui compte, on a un objectif de résultat. Et pour ça, je vois dans la fresque un chemin, une feuille de route avec des étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que le bas de la fresque est finalement le registre des usages, des choses qui ne relèvent finalement que de notre libre arbitre,
sans complications d'équipement, de matières premières, de réglementation, de budget, etc. C'est des choses qu'on peut faire évoluer maintenant, nous, individuellement et collectivement. Mais en tout cas, on peut le faire. On peut rencontrer quelqu'un, se marier. On peut faire un groupe de voisins dans son immeuble, se faire des potes. On peut monter un groupe de musique ou organiser un concert ou y aller. On peut créer un petit marché en faisant venir un producteur, en mettant un tréteau et les pieds, etc. Une registre qui dit oui ou une AMAP. On peut en 60 jours convertir une pelouse en une zone maraîchère productive. On peut aussi choisir en un jour, un instant, de changer de fournisseur d'électricité. Moi, je suis chez Enercop, ça m'a pris un clic et je recommande de le faire pour passer 100% renouvelable. Ça se fait dans l'après-midi. Et on peut aussi choisir de ne plus prendre l'avion pour les loisirs. On a peut-être des contraintes professionnelles qui font qu'on a encore besoin de le prendre. Faut-il le prendre systématiquement? Pas sûr. Mais en tout cas, dans les usages, il y a plein de choses qui relèvent de notre pouvoir d'agir. Donc commençons par là, 0-1 an, des choses qu'on peut faire là. Ça donne un signal pour que ensuite on adapte notre économie, notre outil de production, nos savoir-faire, nos compétences, etc. Et ça va prendre plus de temps. Mais pour amplifier les premiers usages, il y a des pionniers, il s'agit d'élargir le cercle de ceux qui s'engagent là-dedans. Donc on a besoin d'outils, de lieux, de bâtiments, de formations, et c'est ce qui prend 5 ans. Et là, on voit la partie centrale de la fresque, c'est l'outil de la production de cette transformation. On a besoin de convertir des fermes en agroécologie, ça prend 1 à 3 ans. Donc, on peut le retrouver dans cette zone-là. On a besoin de transformer le stock de voitures en retirant les moteurs thermiques et mettant autre chose à la place, ou en simplifiant les voitures, les allégeant, etc. Ça se fait en moins de 5 ans. On a besoin de former des gens, ça se fait en moins de 5 ans. On acquiert un diplôme en moins de 5 ans. On a besoin de nouveaux commerces. Donc, là encore, prendre un pas de porte, le transformer et tenir une activité, ça se fait en moins de 5 ans. Et puis, il y a des choses qui prennent plus de temps. Et on est dans le temps plus long, 5-10 ans et au-delà. Mais je pense que c'est pertinent pour nous de garder un horizon finalement assez serré, 0, 1, 1, 5, 5, 10. Parce que si on démarre aujourd'hui, ça nous mène d'ailleurs en septembre 2029, donc on est quasiment à 2030. Donc, autant dire que ça vaut le coup d'avoir un point d'étape où on voit où on est par rapport à notre objectif de 50%. Si après il faut accélérer, on verra ce qu'on change. Si on est dans la bonne trajectoire, tout ira bien. Mais visons ces 10 ans. Et en plus, c'est une façon de concentrer là encore les efforts sur un objectif de résultat qui nous engage. Donc 5-10 ans, c'est le registre où on va prendre le temps de faire évoluer un cadre réglementaire. On va pouvoir faire évoluer les normes de construction et adapter la façon dont on construit, mais aussi la façon dont on isole. Donc ça suppose qu'on fasse évoluer à grande échelle les surfaces cultivées. Donc du coup, qu'on ait le temps de déployer les nouveaux modèles qu'on aura testés dans les 5 premières années et qu'on soit dans une phase de déploiement à beaucoup plus grande échelle et de consolidation. Donc on a ces 3 horizons de temps qui se nourrissent l'un l'autre. Ce qu'on démarre en 0 à 1 an, c'est le socle qui permet d'enclencher des actions qui requièrent des investissements, des budgets, des organisations, des mises en œuvre, etc. 1 à 5 ans. Et ça préfigure encore la deuxième génération de transformation et sa massification sur 5-10 ans. 0-1, 1-5, 5-10. Ces 3 horizons de temps sont aussi des horizons de temps industriels, économiques, financiers. Donc c'est aussi une façon de flécher de l'argent. Bonne nouvelle, pour tout un tas de raisons, la communauté financière sent le vent du boulet passer. Ça a commencé avec le charbon et les mouvements de désinvestissement, qui étaient des mouvements assez bitniques, très très marginaux, se chiffrent aujourd'hui en milliers de milliards de dollars. Donc on n'est plus du tout dans l'échelle de l'argent de poche. Et là, à cette échelle-là, il y a de l'argent qui se libère. Qui se libère du charbon, qui se libère progressivement de l'exploration pétrolière, du gaz, et on voit que les gaz de schiste, le fracking atteint un certain plateau aux États-Unis, marche pas bien en Angleterre, etc. Donc on a une sortie de capitaux de ces industries polluantes qui se libèrent pour aller vers autre chose, en milliers de milliards de dollars. Donc là, parlons à ces investisseurs, attirons ces capitaux et disons, travaillons ensemble. Ça sert à rien aujourd'hui de mobiliser cet argent pour qu'il reste dormant sur des placements monétaires et qui assure la fortune très court terme de gens qui vont mourir les plus riches du cimetière. On a besoin de mobiliser ces capitaux pour pouvoir assurer la survie de ce système productif et faire que on s'en sorte le moins mal possible. On ne sait pas si on aura évité le pire, mais c'est notre objectif. Donc on a besoin de mobiliser tous ces capitaux. Et c'est un élan plus large qui ne peut réussir aussi que si on parvient à résoudre une autre complexité dans cette transition. On n'est pas seul. Si on y va seul et qu'on a cet ensemble de chantiers à gérer, on va jamais y arriver. On va s'épuiser. On peut pas imaginer que le matin, quand on se lève, eh bien, il fallait pédaler sur un vélo pour produire l'électricité, pour pouvoir chauffer l'eau, pour pouvoir se faire un café, et que en parallèle, il faille de nouveau pédaler pour pouvoir chauffer l'eau, pour pouvoir prendre une douche. Et puis, on peut pas tout faire. Il faut qu'on puisse se faire confiance les uns les autres, qu'on se partage le travail. Donc, avoir une représentation comme ça qui élargit le spectre du possible, du champ de ce qu'on a devant nous, les chantiers, eh bien, c'est une invitation à l'emploi, à l'initiative, à l'entrepreneuriat, à la création, au design, à l'engagement, et le plus nombreux possible et le plus diversifié possible. Soyons très nombreux à nous mobiliser, on aura plus d'impact et on va se compléter et on va pouvoir renforcer les actions qu'on porte les uns les autres. Mmh. S'il y en a un qui veut dire, moi je vais faire un réseau d'épiceries zéro déchet, de proximité avec des produits bio. Eh bien, si le réseau prospère, c'est autant de débouchés qui se réassurent pour des gens qui, par ailleurs, ont du foncier agricole et disent, moi, je vais arrêter de faire des pommes de terre bas de gamme que je vais envoyer à l'export en chargeant mes champs de produits chimiques et en faisant tourner des camions de grande distance. Je vais convertir mon exploitation, je vais embaucher des gens et je vais produire autrement. Peut-être à court terme, je vais avoir l'impression de subir un surcoût, mais on peut avoir peut-être des acteurs financiers qui peuvent lisser cette courbe en aidant à soutenir l'investissement initial, en disant OK, au début ça coûte plus cher, mais à la fin ça coûte moins cher, parce que une fois que on a fait ce travail de conversion des sols, on a aussi réduit l'exposition des populations alentours à des risques chimiques, on a amélioré les qualités gustatives et alimentaires nutritives des produits qu'on met en circulation. Donc du coup, sur le long terme, la population réduit son risque cardiovasculaire, de maladies chroniques longue durée, de diabète, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on investit dans les champs le budget de la santé de dans 10 ans. Et il faut absolument pouvoir faire des passerelles entre des secteurs économiques qui aujourd'hui sont très isolés. Et on voit l'impasse dans laquelle on se trouve quand on fait un budget de santé, puisque on est dans le curatif. Et pour pouvoir faire un budget de santé, en fait, aujourd'hui, il faudrait faire un budget sur l'ensemble des chantiers de la transition qui sont représentés dans cette fresque. Parce que c'est à l'échelle de ces chantiers qu'on va créer du bien-être psychologique. Est-ce que on est heureux, pas heureux? Les suicides augmentent? Ben non, ça, c'est un coût social. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend surtout de ne pas être seul, donc du lien social, la solidarité. Donc c'est un des chantiers qui est là. Ça dépend aussi de l'équilibre de la famille. Y a-t-il de la violence dans le couple ou pas? On voit l'enjeu des féminicides en ce moment. Donc tout ça, c'est des enjeux qui sont a priori pas des enjeux de santé, mais qui au final définissent la trajectoire des coûts, des dépenses de santé. Donc on a là une vision d'ensemble qui nous invite à être nombreux, à nous partager le travail et à coordonner notre action. Ce qui est essentiel là, c'est de sortir du dilemme du prisonnier. On entend souvent les gens qui disent « Ah ouais, mais moi, si j'attends que d'autres fassent. » Oui, tout à fait. Mais n'attendons plus. On a aujourd'hui sur la planète la même donne. C'est un problème planétaire. Donc maintenant qu'on sait qu'on est tous dans le même bateau, on va sortir de ces raisonnements où on dit « Ah ben alors, si moi, je peux pas faire ci parce que je sais pas si l'autre va faire ça. » On a ce même référentiel qui nous est donné par les données, qui nous est fourni par les données du GIEC, entre autres, mais aussi de l'IPBES sur la biodiversité, etc. On a des ressources qui font qu'aujourd'hui, on peut créer des trajectoires et se dire, en confiance et en conscience, j'agis ici, là où j'ai la marge de manœuvre et je peux créer de la marge de manœuvre autour de moi, et je me connecte à d'autres. Ensemble, nous formons une équipe qui se met sur la bonne trajectoire. Et c'est fondamental de créer ce sentiment d'appartenance à un groupe, de donner le courage à chacun, d'avoir l'audace de s'engager dans cette direction. C'est un peu le moment où, à 8 ans, on s'est dit, sur le bout de la planche du plongeur de 3 mètres, « Allez, je sais nager, je me lance, j'y vais. » Eh bien oui, c'est le moment. Il faut aller, il faut plonger, et on saura nager, on saura changer d'air. On était dans un milieu à l'air debout, on va nager, on va changer de... Donc c'est ce moment de rupture qu'il s'agit d'opérer. Donc on a besoin de créer des événements aussi pour pouvoir marquer ce rupture. On a besoin de toucher notre imaginaire, de nous galvaniser, de nous faire plaisir, de nous surprendre, de créer de casser les routines, de changer notre regard sur des tas de trucs. Il faut peut-être aller dans des festivals de musique, faire l'expérience des toilettes sèches et se dire « mais c'est quand même dingue qu'on utilise de l'eau potable pour pouvoir faire évacuer nos besoins ». Et en plus, c'est quand même dingue qu'on perde toute cette urine qui pourrait servir à nourrir les champs et à fertiliser les sols et à éviter des engrais chimiques parce que on les dilue dans l'eau potable. Il faut massifier les toilettes sèches. Donc ça, c'est un enjeu. Je suis content parce que c'est une des thématiques qu'on défend en ce moment sur des visions d'avenir de l'aménagement urbain. Et ça devient un sujet dont on entend parler grâce à Mathieu Vidard sur France Inter, etc. Donc les choses bougent. On sent aussi que d'un point de vue économique, il y a des entreprises comme Unilever qui sont prêtes à mettre fin à une marque comme Magnum parce que la marque, dans leur analyse, ne contribue pas positivement à la société. Donc, ce qu'on appelle des cash machines, des entreprises qui ont une capacité de déploiement massifié à grande échelle, qui rapportent beaucoup d'argent, on peut les arrêter si elles ne vont pas dans le bon sens. Alors, c'est pas encore complètement décidé parce que il y a une sorte de grosse menace de bâton. On verra s'ils vont jusqu'au bout. Mais en tout cas, quand on voit que des groupes industriels de cette taille-là sont prêts à faire des pivots de cette nature, eh bien, appuyons-nous là-dessus pour nous-mêmes mettre en œuvre des changements de cette nature-là, là où on a la main. C'est à notre mesure qu'on va pouvoir agir. Et faisons effet de levier, soyons plus nombreux à transformer l'impact de ce que chacun peut avoir à sa main pour qu'on soit à la bonne échelle.
Et puis surtout, c'est en faisant que les gens prennent confiance et qu'on enclenche le cercle vertueux, finalement.
Oui, et ça, là-dessus, je pense qu'il y a un marqueur qui est très, très symbolique de la vertu de cet effet mobilisateur et du passage à l'action, c'est de regarder les photos du visage de Greta Thunberg. Quand Greta a commencé sa grève pour le climat devant le Parlement, son visage était fermé, taciturne, et puis on n'a pas vu un sourire pendant des mois. Et puis on a commencé à voir des sourires.
Oui, tout à fait.
Et là, il y a une photo qui m'a beaucoup marqué. C'est la photo, une des photos circulées pendant sa traversée à voile de l'Atlantique pour aller à New York. On la voit rayonnante, on voit son visage se transformer. On se dit, mais voyons l'impact que l'action peut générer sur une enfant qui vivait un moment de grave crise psychologique, qui était en perturbation alimentaire, en désociabilisation, en angoisse, etc. Et qui là s'ouvre, rayonne, lumineuse, etc. Et vivons ça chacun de nous et puisons l'énergie dans ce que ces endorphines vont libérer, etc. On va avoir un effet vraiment de boost d'énergie qui va venir de notre mise en action. Et puis surtout, on va arrêter d'avoir peur. Aujourd'hui, ce qui nous paralyse, c'est la peur. C'est pas une bonne conseillère, la peur. Ça peut mener à la colère, ça peut mener au repli sur soi.
Ce que tu évoquais tout à l'heure ne parle que de ça. C'est la peur, le choc, etc.
Oui, et surtout, ayez peur et restez là où vous êtes. Et surtout, ne bougez pas, parce que du coup, si vous bougez, ça va devenir la révolution et on va plus rien maîtriser. On peut penser que certains partis aient ça comme objectif pour encadrer, pour dire surtout, on va maîtriser. Sauf que là, on a besoin d'une mobilisation de grande échelle. Donc, on peut pas simplement attendre des évolutions marginales de 1 à 2% de la population touchant 1 à 2% de leurs émissions. On doit faire moins 10% par année à l'échelle du pays. Ah ! Voilà. Donc, ça, c'est une autre nature. Ça veut dire que on doit créer un élan populaire, un élan économique, un élan culturel, un élan social, un élan psychologique. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Orientons des moyens pour soutenir ceux qui ont besoin d'aide. Ne prenons pas pour acquis le fait que tout le monde va réagir de manière logique et rationnelle dans cette situation. On va avoir besoin de groupes de parole, on va avoir besoin de soutien psychologique, on va avoir besoin de bienveillance, on va avoir besoin de tolérance, on va avoir besoin de plein de choses, ça s'organise. On a des réseaux qui sont organisés sur lesquels on peut s'appuyer, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, même l'armée, les religions, les groupes de sport, les communautés qui s'organisent autour de célébrités, que ce soit des gens de la musique, du spectacle ou des artistes. Chacun de ces leviers qui regroupent du monde est précieux. Appuyons-nous. Proximité, mais aussi en groupe plus large. Sentons-nous rejoindre des groupes plus larges pour se dire qu'on va aussi dans le sens de l'histoire. C'est extrêmement libérateur. Ça donne énormément d'énergie.
D'autant plus que je fais un petit parallèle. Tu l'évoques dans ton livre, mais avec un très bon livre que j'ai lu également qui s'appelle L'autre loi de la jungle, où oui. Ils mettent, Pablo Servigne et Gauthier, je sais pas si je me souviens bien, mettent en avant aussi la coopération et qui a été aussi un des éléments fondamentaux de la réussite de l'espèce humaine finalement.
Oui.
Et que on arrive surtout à des œuvres collectives incroyables.
Oui.
Ça rejoint ce que tu disais, pour ça je me
permets. Notre grande œuvre.
Et Et je reprends un peu le fil que j'ai fait, mais enfin, je suis complètement absorbé par ce que tu dis. est-ce que tu peux nous parler d'un exemple, parce que tu vois tout ce que tu dis, enfin moi je bois du petit lait évidemment, mais si tu veux, il y en a beaucoup qui vont dire oui mais bon, c'est quasi impossible qu'on se mette en marche, etc. Toi tu l'as évoqué déjà, grande sainte, c'est pas du flan, c'est du vrai. Comment tu l'as utilisé cette fraise, quels sont les premiers résultats, notamment ces fameux PPP,
les projets petits premiers pas,
exactement, que je trouve excellent. Voilà. Est-ce que tu peux nous illustrer tout ça?
Alors, c'est forcément une mosaïque, en fait, cette illustration. On peut retrouver pas mal de points qui se retrouvent dans un même lieu, que ce soit Grande Sainte, ça peut être Manspack aussi. Je reviendrai sur Grande Sainte, mais Manspack me semble peut-être un meilleur exemple pour répondre à ta question, parce que on peut isoler des points de départ, tandis que Grande Sainte, c'est un processus plus continu qui a démarré non seulement sous Damien Carême pendant plusieurs mandats, mais aussi sous les mandats du père de Damien Carême. Donc, d'accord, on est sur un processus plus long. Mais Grande Sainte, aujourd'hui, c'est convaincant parce que ça montre aussi probablement le résultat, les effets du bon gouvernement sur le temps long. Là, on a dépassé le temps de 10 ans. On a vu les forêts grandir à Grande Sainte. On est parti d'un territoire maraîcher plat sur lequel on a aujourd'hui des vergers conservatoires, on a des forêts avec des dizaines de milliers d'arbres qui ont été plantés et qui sont aujourd'hui des arbres matures. Donc, on a changé le paysage. Donc, on est au point d'aboutissement, finalement, très proche de cette vision qui est présentée là. Mais pour revenir à Manspack, ce qui est intéressant, c'est les clés de la réussite de petits projets. Justement, ces projets premiers pas. Créer un marché bio sur la place du village, de nombreux territoires se disent « bah oui, ça c'est une bonne piste ». Et la réussite du marché de Manspack, ça a été d'organiser au moment du marché un programme de concert du groupe de musiciens du coin. Donc on avait deux bonnes raisons de venir au même endroit. Écouter ses copains faire de la musique et passer un bon moment, puis se dire « ah bah tiens, je vais en profiter pour faire mes courses ». Ou faire ses courses et se dire « j'aime bien faire mes courses là-bas, parce que quand je fais mes courses, j'ai de la musique, les gens sont détendus, ça fait plaisir, on bavarde, on passe un bon moment ». Voilà. Donc c'est ce genre de clé qui permet de relier des projets a priori déconnectés les uns des autres, mais qui ensemble se renforcent et permettent de changer une dynamique. À Manspack, du coup, il y a plein d'autres choses qui se passent. Il y a eu des terres agricoles qui ont été transformées, avec du coup l'accueil d'agriculteurs en permaculture et en agroécologie. Le toit de l'église a servi est devenu une ferme photovoltaïque. Donc on sent que ça bouge dans plein de registres. Dans d'autres lieux, il y a eu aussi des décisions. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est de rappeler la marge de manœuvre. Il y a des décisions individuelles. Gilles Perrol à Moinsartou a eu un impact considérable sur la ville, près de Cannes, quand d'abord il a décidé qu'on allait arrêter de mettre n'importe quoi dans l'assiette des enfants et donc on allait passer au bio. Et au bout d'un an, bilan de l'opération, certes l'opération bio a réussi, mais la provenance des ingrédients posait problème. On est dans le sud, dans un endroit où il y a des terres agricoles à proximité, et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à devoir importer des haricots de n'importe où. Non, c'est pas possible. Donc du coup, au bout d'un an, achat de terres maraîchères, embauche d'un maraîcher, création d'une régie alimentaire et autonomisation de la production de la restauration pour les élèves. Et du coup, un projet pédagogique en est né, parce que le fait d'avoir rapproché les zones de production des zones de consommation, ça a rendu possible le fait d'organiser des sorties scolaires des élèves qui mangent à la cantine vers les champs et à la rencontre de l'agriculteur qui prépare pour eux, ce qui fait qu'ils connaissent mieux les ingrédients. Donc quand on leur sert du panais, ben ils voient le panais dans leur tête, ils savent d'où ça vient, et puis ils ont envie de goûter puisqu'ils l'ont vu grandir. Donc puisqu'ils goûtent, ils deviennent réceptifs à la nouveauté et non plus le rejet qui produit aujourd'hui du déchet. Et on sait que le déchet alimentaire, le gaspillage alimentaire, c'est un des pires enjeux, puisque si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième pays émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Donc on a là un levier considérable, multifactoriel, qui va bouger dans un domaine et avoir des ramifications dans d'autres. Et c'est parce qu'on va aussi investir sur le projet pédagogique, qu'on va donner du sens à l'alimentation rapprochée en circuit court, qu'on va réduire la part des déchets dans la cantine, parce que les enfants connaissent mieux. Et puisqu'ils connaissent mieux, eh bien, ils réduisent leur taux de déchets. Ça. Donc, c'est des choses qu'on arrive à connecter. Quand on connecte et qu'on sort de l'isolement, on arrive à faire des choses, on fait bouger des montagnes.
Complètement. Et ce qui est magnifique aussi avec cette phrase, c'est que c'est un outil qui est accessible à tous. C'est-à-dire que tu l'évoques également dans le livre, c'est avec la classe de ton fils, avec des politiques, tu l'as évoqué à l'instant, ou avec des groupes, avec des parties prenantes très très variées. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces différents contextes?
Trois exemples qui montrent aussi la diversité des publics qu'on peut réunir. Et c'est pour moi un enjeu, de fédérer des gens au-delà des chapelles, des étiquettes. Et donc j'évoquais tout à l'heure ce réseau de patrons à Nantes, les dirigeants responsables de l'Ouest, 120 patrons qui ont lu le livre, du coup, qui se sont appropriés les méthodologies et qui se sont réunis en séminaire pour travailler sur un plan stratégique autour des éléments fournis par le livre. Et à leur échelle, 120 patrons, c'est 45 000 salariés. Donc le monde économique, et j'ai d'autres interventions auprès de clients privés, le monde économique réagit et s'empare de ces outils-là. Et le fait d'avoir une grande fresque a été aussi une clé pour réunir des acteurs, parmi ces patrons, des gens très très différents, des gens qui produisent des fruits et légumes bio avec les Coteaux Nantais, il y a Harmonie Mutuelle qui est une mutuelle, et puis Armor qui est un industriel qui est spécialisé dans les technologies d'impression, y compris d'impression de panneaux solaires photovoltaïques souples. Donc des gens qui, a priori très différents, se retrouvent solidaires grâce à cette fresque et se disent on est dans le même espace, on est dans la même équipe. Un exemple. Deuxième exemple, un réseau de jeunes qui se réunissaient pour réfléchir à leur engagement dans la société, dans un contexte à la fois spirituel et religieux, donc le réseau Fondatio. Donc là, j'avais 90 jeunes qui n'étaient pas forcément tous de niveau de sensibilisation équivalente sur l'urgence climatique et environnementale. Et là, ça les a réunis, ça a aussi conforté le sens de l'engagement qu'ils voulaient avoir dans plein de manières différentes. Ce deuxième exemple avec Fondatio montre que des jeunes qui cherchent leur engagement ont pu renforcer l'énergie qu'ils pouvaient avoir dans les projets à leur portée parce que ils voyaient qu'il y avait plein de manières différentes d'agir. Troisième exemple, je suis allé en juillet à Pontivy à la bascule, donc auprès de jeunes qui ont tout plaqué face à l'urgence environnementale et qui sont réunis pendant 5 mois pour dire voilà, il faut qu'on trouve des solutions et qu'on se mobilise, le mouvement de Maxime de Rosselan. Et je leur ai remis une fresque à l'époque pour leur dire voilà, je pense que il y a tout ça devant nous. Et puis il y a eu une vraie rencontre parce que eux avaient déjà réfléchi à leur programme d'action et c'est très pratique parce qu'on peut localiser plein de chantiers auxquels on avait décidé de travailler, puis on arrive à les relier les uns aux autres et ça donne du sens, ça donne une cohérence. Et quand on s'est retrouvé pour l'an off, donc l'événement qu'ils ont tenu fin août début septembre, et à ma grande joie, j'ai vu que la fresque était devenue la matrice du programme. Ils avaient d'ailleurs trouvé un autre nom, c'est devenu la fresque de l'écosystème. Et puis ça a été un objet qu'on a utilisé dans les animations pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître nos complémentarités. Donc là, on était dans un milieu de militants très sensibles à l'écologie et à l'environnement, qui est a priori pas du tout le même cadre que ces patrons nantais ou que ces jeunes portés par la foi et la spiritualité. Et c'est ce genre de choses qui est en train de se passer. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'autres exemples avec des animations auprès de jeunes, de moins jeunes. Des sujets sur lesquels moi je fonde beaucoup d'espoir, c'est qu'on trouve un tuilage entre les formations qui ont cours en ce moment avec la fresque du climat, organisée par Cédric Ringenbach, qui est formidable. Un formidable outil pour communiquer la synthèse et la complexité des enjeux climatiques et des biodiversités, donc comprendre pourquoi il faut agir. Et il me semble que la combinaison de nos deux fresques, pourquoi avec la fresque du climat et comment avec la fresque de la renaissance écologique, qui lui répond et qui vient porter du coup des outils aux participants en leur disant maintenant que vous percevez cette extrême urgence et que vous en sentez le risque et la menace, hein, on parle de conflits armés et de faim à la fin, maintenant passons à l'action. Et donc là, on a un cadre pour pouvoir accompagner des participants de cette fresque du climat qui ont envie de passer à l'action. Je pense que ça, c'est une piste fertile. On va voir comment ça évolue. Mais j'observe qu'aujourd'hui, les sollicitations et l'intérêt pour la fresque et le livre viennent vraiment de milieux très, très différents. Donc ça, c'est une joie pour moi.
Très content d'entendre tout ça, en tout cas. Je vais devoir arrêter l'entretien, mais j'aimerais encore plein de questions à te poser. Limite, j'hésite à faire un nouveau rendez-vous avec toi. Mais si tu avais des conseils pour les gens qui nous écoutent, justement, un petit peu comme ceux que tu as évoqués à l'instant, pour qu'ils puissent s'emparer comme ça de la fresque pour discuter avec des voisins, des amis, enfin autour d'eux. Par quoi il faut commencer ?
Alors, moi, j'ai un livre à vendre, donc je vais dire lisez mon livre. Sûr. Lisez Renaissance écologique, 24 chantiers pour le monde de demain, chez Actes Sud, et achetez-le chez votre libraire pas loin, parce que ça fait partie de la mise en œuvre de ce qu'il y a dans le livre. Il faut faire tourner le petit commerce de proximité. Si vous n'avez pas de libraire, commandez-le chez Place des Libraires, qui vous le fournira à proximité. Tout le monde va peut-être pas lire le livre. Même si, hein, quoique. donc, du coup, sur le site renaissanceécologique.fr, j'ai publié pas mal de vidéos dans la section pour en savoir plus. Et donc là, il y a une autre façon de rentrer dans le sujet, par la vidéo, par le récit, par l'image, etc. Et puis après, il y a l'autre entrée qui est de me contacter par le site et de démarrer par l'image. Et par l'image, tu évoquais tout à l'heure l'usage de cette fresque dans l'école de mon fils quand il était en CE1. Ne serait-ce qu'avoir un grand panneau de coloriage, c'est important. Parce que c'est l'occasion de consacrer du temps à cette vision-là, de s'approprier les choses. Et puis quand à Nantes, il y avait eu le Nantes Food Forum en 2017, on avait un grand tirage de 5 mètres, donc encore plus grand. Et là, pendant 2 jours, l'image s'est enrichie. Donc organiser un événement, une kermesse ou une fête de voisins, une fête de rue, etc., avec cette image-là, c'est rigolo, c'est sympa, on peut faire des trucs, une fête de rentrée avec les parents dans l'école, c'est un objet de discussion et c'est un objet de rencontre. On n'a pas besoin d'être des experts partout, d'avoir tout compris. Surtout, n'en faisons pas un présupposé, une condition, parce que sinon on va toucher une minorité de la population. Accueillons, intégrons, connectons, animons, inspirons nos contemporains, nos voisins, nos amis, nos familles, et ça on peut le faire avec sous forme de jeu. La dimension ludique est importante aussi. Donc ludique, festive, donc plein de registres.
Ok, en tout cas un grand merci Julien pour cet entretien passionnant.
Merci à toi Brieux.
Et puis j'invite tout le monde évidemment à lire le livre de Julien, donc Renaissance écologique. Je mettrai le lien avec l'article, avec l'épisode. Et puis j'espère à bientôt.
À bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.